Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
En chemin avec Marie toute cette semaine dans cette série des clés pour vivre. Marie, chemin de vie, chemin d'espérance, et nous sommes dans ce jubilé aussi de l'espérance avec pour intervenant dont Anne-Guillaume Vernat. Bonjour frère.
Bonjour.
De la communauté Saint-Martin et puis en mission depuis bientôt 10 ans dans ce sanctuaire marial de Lourdes où vous voyez vous-même passer des touristes hein, et puis de nombreux pèlerins venant de prier ici.
Des pèlerins, oui.
Oui,
des pèlerins.
Oui, oui, une belle expérience pour vous. Je ne vous ai pas interrogé sur cette belle mission que vous avez depuis bientôt 10 ans ici.
C'est grandiose et très impressionnant de voir les foules vraiment qui viennent toujours à Lourdes. Et vraiment, c'est en pèlerin. En pèlerin. Il n'y a pas de touristes. On ne visite pas Lourdes comme on visite un château ou un musée.
On n'est pas dans un parc d'attractions.
On a la foi, on n'a pas la foi, ce n'est pas le problème. Mais on vient à Lourdes et dans le sanctuaire, forcément, tout homme est touché. Et on est témoin, nous, les prêtres en particulier, de conversions extraordinaires. Rien que de franchir le seuil du sanctuaire est un acte de foi. Et même si on dirait qu'on ne veut pas croire ou qu'on ne croit pas, on rentre quand même dans le sanctuaire. C'est un acte délibéré qui commence un acte de foi, immanquablement. Quoi. Donc il n'y a vraiment que des pèlerins qui rentrent à Lourdes. Mais je devrais dire la même chose de toutes nos églises de France et de Navarre et du monde entier. Rentrer dans une église, ce n'est jamais un acte anodin. Du reste, beaucoup de gens nous disent « Ah ben, pendant les vacances, on visite les églises. Ben, » certains ne le font pas. Et ceux-là le font. Et donc, rentrer dans une église, c'est un acte de foi. C'est immanquablement. Et donc, forcément, le Seigneur travaille dans les cœurs, et la Vierge Marie aussi. Et donc, il y a énormément de conversions.
Et vous en êtes témoin.
Oui, bah parce qu'après, nous rencontrons les gens, il y a le sacrement de réconciliation.
Puis les temps d'écoute, peut-être.
Et puis, oui, enfin, oui, tout. Oui. C'est ce que nous vivons, c'est notre mission au sanctuaire. Nous accueillons les gens, nous accueillons les pèlerins. Et donc, ça, c'est grandiose. Mais tous nos auditeurs sont également les témoins de cela. Vous voyez le nombre de catéchumènes qui se présentent au baptême chaque année, là, depuis quelque temps. C'est très impressionnant. Et quand on fait un petit micro-trottoir auprès de ces catéchumènes, ces néophytes, ils nous disent, bah, parce qu'ils sont rentrés dans une église. Et ils ont été touchés par la grâce, appelés par le Seigneur. Donc c'est très simple, c'est très simple.
Le Seigneur est grand.
Le Seigneur est grand, donc... le Seigneur travaille. Le Seigneur rassemble son peuple. Ça c'est important. Ouais. Le peuple de Dieu, vous savez, c'est Jésus qui dit ça dans l'évangile, « Je suis venu pour rassembler les brebis perdues de la maison d'Israël ».
Il est en train d'opérer un peu ce miracle de rassembler son peuple et ses brebis égarées.
C'est pas un miracle, c'est la mission normale de l'Église. Et c'est le Christ qui l'accomplit au milieu de nous, avec nous, par nous, parce que c'est nous qui avons bâti les églises, c'est nous qui annonçons l'Évangile, mais c'est le Christ qui accomplit sa mission de rassembler les brebis perdues de la maison d'Israël. Et les brebis perdues de la maison d'Israël se lèvent et viennent à nous. C'est extraordinaire. Et nous, on n'a qu'à les accueillir, leur parler de Jésus, et Jésus a déjà travaillé leur cœur.
Merci infiniment, dont Anne-Guillaume.
Alors, c'est là une finalité, je me permets de continuer, c'est l'espérance de l'Église à la fin des temps, la manifestation.
Et voilà, j'allais y venir, voilà, cette Église à la fin des temps. Vous avez anticipé, c'était ma question, c'est cette Église, le Seigneur rassemble ses brebis, et il les rassemble peut-être dans ce que l'on appelle la fin des temps. Alors, qu'en est-il de cette fin des temps? Et puis, sans perdre de vue aussi, cette mère de...
La mère de Dieu, Marie.
Mère de l'Église, la Vierge Marie.
Oui, en fait, moi, je pense que vraiment, de prier la Vierge Marie, en particulier avec ce titre de Marie, Mère de l'Église, réveille dans notre cœur l'espérance de voir l'Église manifestée en grande gloire et puissance, donc à la fin des temps, pas ici-bas sur terre. Ici-bas sur terre, l'Église mène un pèlerinage douloureux, comme dans lequel il doit y avoir le témoignage du martyr, exactement comme le Christ Jésus. Il a fini son existence humaine sur la croix. On peut dire la même chose de l'Église, hein, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui le dit, au numéro 675 et suivant. Mais par contre, nous espérons toujours, comme on a attendu la résurrection du Christ, on attend la manifestation dans la gloire de l'Église. Or si le Seigneur aujourd'hui, on le disait à l'instant, donc, réveille son peuple et rassemble les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est un signe d'espérance que un jour sera manifestée cette Église comme la Jérusalem céleste qui descendra du ciel, toute dans la gloire, dans la lumière, l'épouse parfaite du Christ, dans une communion totale avec Dieu. Donc ça, c'est notre espérance. Et c'est ce qu'on appelle la fin des temps. Alors quand on parle de la fin des temps, souvent, on parle aussi de la fin du monde. Et là, c'est absolument effrayant. On parle de l'apocalypse, c'est la destruction de tout. C'est pas vrai. L'apocalypse est un livre d'espérance extraordinaire, justement dans les temps de persécution, de combat difficile. Quand on a du mal à discerner les événements du monde, lisons le livre de l'apocalypse. Il y a deux choses à dire, c'est les évangiles et le livre de l'apocalypse, parce que justement, ça donne des clés. Pas seulement pour vivre, mais des clés pour comprendre l'histoire, telle que Dieu conduit son peuple à travers les nations, les peuples et tout sur la terre, mais pour le conduire au ciel. Le livre de l'Apocalypse se termine dans un triomphe extraordinaire de l'Église. Et c'est cela notre espérance. Et si on commence aujourd'hui à prier la Vierge Marie comme mère de l'Église, encore une fois, ce titre est tout nouveau. Au début de l'histoire de l'Église, on priait la Vierge Marie mère de Dieu, car nous reconnaissons que Jésus est le Fils de Dieu, c'est le mystère de l'incarnation, c'est le jubilé que nous célébrons cette année, très significatif. Eh bien, prier la Vierge Marie comme mère de Dieu, c'est comprendre que ce Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur. Mais nous sommes pèlerins d'espérance, c'est le thème qu'a voulu le pape François, parce que ça nous tourne vers le deuxième titre de la Vierge Marie que nous donnons aujourd'hui, donc, si on s'approche de la fin des temps, ça c'est le Seigneur qui le sait, Marie, mère de l'Église, ce titre-là réveille dans notre cœur la finalité de notre espérance. Ce n'est pas que tout aille bien sur terre et qu'on puisse continuer d'exister sur terre comme si tout allait bien. Non, c'est l'avènement définitif de ce royaume pour lequel Jésus a quand même donné sa vie. Et donc, ce n'est pas rien. Et ça doit être notre espérance. Donc, priez aujourd'hui Marie, mère de l'Église, titre tout nouveau qu'a donné le pape Paul VI à la fin du Concile Vatican II. Jamais on n'avait prié Marie, mère de l'Église avant. Et donc, c'est très significatif de cette espérance eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps, de l'avènement de l'Église de manière définitive. On est pèlerin d'espérance en passant du titre de Marie, mère de Dieu à Marie, mère de l'Église. Le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, le salut que Dieu doit donner à notre humanité. C'est cela que donc prier la Vierge Marie nous fait avancer vers.
Et en fait, vous le dites et vous le redites à chacun de ces entretiens dans cette série spéciale consacrée à la très sainte Vierge Marie, dans cette histoire du monde, dans cette histoire qui a débuté aussi dans cette histoire de l'Église avec ce grand mystère de l'incarnation, Dieu qui se fait homme en vue de la rédemption. Vous avez rappelé le salut. C'est le point final, c'est la direction, c'est donc s'autoriser. On l'a entendu, s'autoriser. Ouvrir la porte de son cœur pour accueillir cette femme admirable et qui nous est donnée.
Nous s'autoriser aussi à espérer dans cette fin des temps. Parce que souvent,
on désespère on aujourd'hui.
C'est surtout qu'on la craint. Ah non, il faudrait que ça dure le plus longtemps possible. Et puis, s'il doit y avoir une fin des temps, pourvu que ce soit le plus loin possible. Ça, c'est pas chrétien. Le bon chrétien doit espérer l'avènement du royaume, doit espérer la manifestation, la victoire du Christ, la manifestation de la victoire du Christ. Donc, espérer l'Église, mais celle du ciel. C'est ça l'espérance chrétienne. Là, il faut relire saint Paul qui dit les premiers chrétiens étaient convaincus que le Seigneur Jésus allait venir se manifester avec puissance là de manière imminente. Il faut aujourd'hui que ce soit notre espérance aussi.
Alors restons dans l'espérance, et puis ça tombe bien puisque vous l'avez rappelé, et c'est important, nous sommes dans ce jubilé de l'espérance que le pape François décédé le 21 avril 2025 a lancé. Donc restons, chers auditeurs, là où vous êtes, aujourd'hui, maintenant ou demain, entrez dans ce mouvement d'espérance, parce qu'il est question quand même du salut, et puis n'hésitez pas. Vous avez parlé de ce sanctuaire de Lourdes, il y a plein de sanctuaires en France à faire cette démarche aussi dans un sanctuaire. Je vous donne rendez-vous si vous le voulez bien et ça sera le dernier numéro de cette série avec vous, dont Anne-Guillaume Vernat, demain à la même heure. Merci.
Merci, à demain.